Le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc pour la méditation, on met de côté tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, tout ce que nous ferons ce soir, demain et les jours prochains. Et nous nous efforçons d'être conscients de l'instant présent, tel qu'il est. D'être conscient des sensations, des facteurs mentaux, des perceptions, des pensées. Sans rejeter quoi que ce soit, mais sans s'identifier non plus à quoi que ce soit. Et si l'esprit a du mal à rester dans cet état d'observation, cet état d'attention, mais qu'il a tendance plutôt à se laisser emporter par des pensées ou autres phénomènes, alors vous le placez sur un support tel que la respiration ou un support de votre choix, de façon à le ramener sur ce support à chaque fois qu'il quitte ce support pour se fixer sur une pensée, une sensation ou une perception. Pour les personnes qui ont l'habitude de méditer depuis plus d'une année, essayez de méditer sans support et de rester dans l'aspect connaissance de l'esprit, qui sait ce qui se passe, qui est conscient des phénomènes présents, sans étiqueter ces phénomènes, sans retenir ceux qui nous sont agréables, sans rejeter ceux qui nous sont désagréables. Que l'esprit soit clair, vif, pas du tout dans la torpeur ou la somnolence. Et pas non plus dans la distraction. Les phénomènes continuent d'apparaître dans l'esprit. On continue d'avoir des pensées, des sensations, des perceptions. On ne se laisse pas distraire par ces phénomènes, mais on ne les rejette pas non plus. pour le refuge, on va pouvoir enregistrer le refuge. Ça marche, c'est ça? Oui. Donc on va continuer de voir l'enseignement que donnait le précédent Kalo Rinpoche à Vancouver sur le traitement des facteurs perturbateurs. Et ce soir, on voit ça en fonction des, en fonction du Vajrayana. Vajrayana, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'est le Vajrayana, d'autant qu'en Occident, le Vajrayana est de plus en plus mal compris, mal pratiqué, et il y a une bonne, à mon avis, une bonne réforme à faire dans la pratique du Vajrayana telle que ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que nous sommes plus stupides que les Tibétains, mais je pense que nous ne comprenons pas vraiment l'essence même de cet enseignement. Le Vajrayana est ce qu'on appelle la voie résultante par rapport au Sutrayana, c'est-à-dire par rapport aux pratiques et aux enseignements qui se basent sur les sutras étant les enseignements publics qu'a donné le Bouddha. Le Vajrayana s'appuie sur les sutras, mais aussi sur les tantras, donc sur des enseignements qui sont vraiment propres au Vajrayana et qui proposent toute un panel de méthodes propres au tantra, propres au Vajrayana. Le Sutrayana, on l'appelle le véhicule causal. C'est-à-dire qu'on voit la pratique comme étant la cause qui va nous permettre de réaliser l'éveil. Dans le Vajrayana, qu'on appelle le véhicule résultant, nous ne pratiquons pas pour réaliser l'éveil, nous pratiquons parce que nous sommes éveillés. Et ça, c'est vraiment un point très important. Pour ceux qui aujourd'hui, par exemple, pratiquent, je ne sais pas si ça vous arrive de pratiquer Chenrezig ou d'autres pratiques de Yidam, si vous pratiquez Chenrezig, vous ne pratiquez pas Chenrezig pour devenir Chenrezig, c'est-à-dire pour développer cet amour et cette compassion, hein, ces qualités de votre nature de sagesse. Vous pratiquez Chenrezig parce que vous êtes là, ici et maintenant, Chenrezig. Et le but de cette pratique, c'est de réaliser que nous l'avons toujours été et que nous le sommes. Et que nous n'allons pas le devenir un jour. Mais que cette nature de Bouddha, elle est déjà présente en nous. Ça rejoint le refuge dans le Bouddha. Et ça, c'est très très fort dans le Vajrayana. Ensuite, alors pour toutes ces méthodes, le Vajrayana va s'appuyer sur quatre formes de tantra. Le Kriya Tantra, Sharya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra. Cette classification, juste pour un peu d'histoire, cette classification, elle se retrouve dans ce qu'on appelle l'école nouvelle. Et l'école nouvelle, eh bien, c'est notre lignée, la lignée Kagyupa, la lignée Gelugpa et la lignée Sakyapa. Les Nyingmapa, qu'on appelle l'école ancienne, Nyingma veut dire ancien d'ailleurs, l'école donc Nyingmapa, divise les tantras en 9 catégories. Alors ça, c'est voilà, les particularismes entre l'école ancienne et puis l'école nouvelle, mais c'est juste une division différente des tantras, mais qui ne donne pas de différence fondamentale dans la pratique. Bon. Mais toutes ces méthodes propres au Vajrayana, elles doivent se baser, pour pouvoir les pratiquer, sur ce qu'on appelle la vue. La vue de la nature de l'esprit. Et ça, c'est le premier maillon. La vue, c'est comprendre ce que l'on veut dire par vacuité, clarté, connaissance. Ces trois éléments qui caractérisent la nature de l'esprit. Et nous avons besoin d'établir cette vue, puisque toutes les pratiques propres au Vajrayana, une pratique de Yidam avec ce qu'on appelle les phases de développement, les phases d'achèvement, etc., eh bien, se basent sur cette compréhension, sur cette vue. Donc, Rinpoche Rinpoche, par exemple, dans ses enseignements, depuis que je le connais, ne parle pas encore des moyens propres au Vajrayana, mais il ne met l'accent que sur la vue. Donc il enseigne Shiné et Laktong. Et non seulement nous devons en avoir une compréhension, mais nous devons en avoir une certaine expérience, on doit goûter à cette vue, de façon à ce que les pratiques ensuite propres au Vajrayana, eh bien, elles deviennent vraiment un moyen extrêmement adapté et puissant pour nous permettre de réaliser l'éveil. Si la vue n'est pas présente, alors nous pratiquons le Vajrayana de façon théiste. Et ça, c'est le gros problème du Vajrayana en Occident aujourd'hui. Depuis 30-40 ans que le Dharma est installé, eh bien, la plupart des pratiquants du Vajrayana aujourd'hui pratiquent de façon théiste. C'est-à-dire qu'ils pratiquent Tara, ils pratiquent Chenrezi ou un autre Yidam, comme un chrétien peut invoquer Dieu ou le Christ, donc de façon duelle. Il y a cette apparence de dualité dans la pratique d'un Yidam, mais ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Et il faut toujours se rappeler que quand on voit Chenrezi, on visualise Chenrezi en face de soi, mais c'est une construction de mon esprit, cette visualisation, et que cette visualisation n'a pas d'existence en dehors de mon esprit. Donc la dualité est juste une apparence que l'on maintient. Pourquoi ? Parce que la pratique du Vajrayana va utiliser les tendances ordinaires de l'esprit et les transformer en un moyen pour réaliser l'éveil. Nous sommes habitués aujourd'hui à fonctionner en mode duel. C'est un des quatre voiles qui recouvre la nature de l'esprit, le voile de la dualité. Et c'est très fort. On est toujours en train de se considérer moi et il y a vous, quoi. Et il y a toujours cette dualité, hein, entre le sujet et l'objet. Donc cette dualité, le Vajrayana va l'utiliser. Mais avant de pouvoir l'utiliser, et que cette utilisation porte vraiment des fruits, nous permette, devienne vraiment un moyen pour réaliser l'éveil, nous devons comprendre que cette dualité est seulement une apparence, mais qu'elle n'existe pas par elle-même, et que l'objet que l'on considère comme extérieur à soi-même, mais c'est une projection de notre esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vue. Alors, Kalu Rinpoche, dans cet enseignement, va enseigner la vue et va nous permettre de travailler sur les facteurs perturbateurs selon cette vue. Et il dit, les pratiques elles-mêmes du Vajrayana, eh bien, c'est d'abord complexe à expliquer, donc ça ne peut pas se faire dans un enseignement de une heure, ça se fait sur un minimum un week-end, hein, pour voir comment on peut utiliser tel ou tel yidam, tel ou tel symbole de méditation. Mais il faut absolument que la vue soit comprise. Et ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui des Occidentaux. Cette femme, Khandro Rinpoche, déplore que nous pratiquions le Vajrayana de façon théiste, de façon dualiste. Ça, elle en a parlé à Luce. Chez l'Enigmapa, vous avez Dzongsa Rinpoche qui n'arrête pas, hein, d'attirer l'attention des pratiquants en disant « Mais attention, vous pratiquez de façon théiste. » Jamais le Bouddha n'a enseigné ce type de méditation. Un yidam, c'est ce que nous sommes. Ça représente ce que nous sommes. Alors même si on le projette en face de nous dans l'espace comme visualisation, le yidam, c'est ce que nous sommes. Donc nous devons plutôt nous identifier au yidam. Alors, on va parler plutôt de la vue ce soir. Alors, Kalu Rinpoche reprécise bien quels sont les signes de réussite dans notre pratique spirituelle. Si par la pratique et la méditation qui procèdent de ces enseignements, les émotions diminuent, cela signifie que la méditation est féconde. Lorsqu'au contraire les émotions restent stables ou bien même augmentent, c'est le signe qu'elle est stérile. Elle n'atteint pas son but. Alors ça, c'est vraiment à retenir, hein. Surtout les anciens, là. C'est vraiment à retenir. Observez votre esprit et voyez comment vous réagissez par rapport à telle situation et par rapport à tel facteur perturbateur qui s'élève dans votre esprit. Si vous notez qu'il y a quand même un peu moins de promptitude à s'énerver, par exemple, à se mettre en colère ou à être avide pour quelque chose parce qu'on entre en contact avec un objet qui fait naître cette avidité. Alors on peut se dire, bon, la méthode apparemment, ça transforme quelque chose dans mon esprit. Mais si vous notez qu'il n'y a aucun changement, ne mettez pas en doute à ce moment-là le dharma lui-même, mais mettez en doute votre façon de pratiquer le dharma. Ça, c'est vraiment le critère. C'est est-ce que les facteurs perturbateurs ont tendance à diminuer dans mon esprit ? Et lorsque les facteurs perturbateurs diminuent, il y a les qualités qui augmentent, qui se développent, mais alors d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si les facteurs perturbateurs diminuent, il y a davantage d'amour, de compassion, d'attention à autrui, mais qui se développent absolument d'elles-mêmes, sans se forcer. Ça devient naturel. Il y a une attention à autrui qui devient de plus en plus puissante, de plus en plus forte. Donc ça, ce sont les deux critères qui peuvent vraiment évaluer où nous en sommes dans notre pratique. Et Rinpoche continue en disant quelle est la différence entre un érudit qui étudie le dharma et un pratiquant du dharma. Un érudit va avoir grande confiance dans les textes qu'il comprend, qu'il étudie et qu'il comprend, va avoir une grande confiance dans le Bouddha, dans tel maître qui fait tel commentaire de texte, etc. C'est quelqu'un qui... Oui, il va avoir cette confiance qui va se développer, mais chez un pratiquant, un véritable pratiquant, en plus de cette confiance, c'est la réduction des facteurs perturbateurs qui doit être le critère principal et qui fait la différence entre l'érudition et la pratique du dharma. Voilà, la méditation engendre l'absence d'émotions conflictuelles. Que la méditation nous permette de rejeter les émotions, de les transformer ou de les libérer dans l'esprit, on reconnaît dans tous les cas ses fruits au fait que celle-ci diminue. Voilà. Donc ça, il a bien insisté sur une page. Hein. Je pense que ça, c'est à retenir. Ensuite, il parle du problème des Occidentaux. Et l'attitude des Occidentaux sur le désir attachement. Première fois que les Tibétains sont venus en Occident, ils étaient ébahis par tous les progrès que nous avons accomplis depuis maintenant des générations sur le confort, la santé, toutes les conditions de vie des Occidentaux. Kalu Rinpoche disait, quand au Tibet on visualise des Wachen, on ne visualise pas le dixième de ce que vous avez vous en Occident, comme bien. Et pourtant, les Occidentaux sont les êtres les plus déprimés, tristes de la planète. Et il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. La France est le pays au monde, quand même, où on consomme le plus de médicaments, de calmants, etc. Voilà, il y a un problème, hein, quand même. Alors, Kalu Rinpoche, déjà en 75, quelque chose comme ça, à Vancouver, il explique le pourquoi. C'est pas inintéressant, il dit, en Occident, le pays est beau, les maisons très confortables, la prospérité évidente dans tous les domaines, à commencer par la nourriture et les vêtements. L'abondance et la qualité des biens matériels sont telles qu'on se croirait dans le monde des dieux. Au premier abord, on est amené à penser que les gens vivant dans un tel contexte ne peuvent être qu'heureux. Pourtant, l'esprit des Occidentaux ne semble pas toujours en accord avec leur environnement. Au lieu d'y trouver le bonheur, on y rencontre beaucoup de difficultés, d'insatisfaction et de souffrance. D'où viennent ces problèmes ? Des émotions conflictuelles, et plus particulièrement du désir-attachement, que les Occidentaux ne savent ni transformer, ni écarter. Pour lui, c'est très clair. La cause de notre insatisfaction permanente en Occident, c'est que c'est le désir-attachement qui est vu par nous-mêmes comme étant le bonheur. Et on ne voit pas, et on a fondé, hein, on a basé tout notre mode de vie, on va dire, sur le désir-attachement. On est hyper attaché, et on est toujours dans une espèce d'avidité. Quand vous parlez autour de vous que dans le bouddhisme on travaille sur le désir, et entre nous on ne travaille pas sur la notion de plaisir, hein, mais sur l'attachement au plaisir, sur la dépendance au plaisir, il y a toujours une personne qui vous dit, mais attendez, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie, quoi. Quelle serait la vie? Que serait la vie s'il n'y avait pas de désir? On voit le désir ici comme un moteur de réussite. Alors, c'est pas propre aux Occidentaux. Tous les humains fonctionnent avec le désir-attachement. Le désir-attachement est le facteur perturbateur le plus puissant chez les Occidentaux. Chez les animaux, par exemple, c'est plutôt l'opacité. Mais chez les Occidentaux, c'est plutôt le désir-attachement. Mais l'Occident est particulièrement accro au désir-attachement. Alors, donc, les Occidentaux ne savent ni transformer ni écarter ce désir-attachement. Il me semble que si les émotions perdaient de leur emprise, le pays deviendrait un lieu extraordinaire où la joie et la paix se marieraient à la prospérité. Un proverbe tibétain dit « Ventre vide ne pense qu'au vol, ventre plein ne pense qu'au désir ». Cela signifie que celui qui n'a rien à manger est obsédé par le moyen le plus immédiat, qui lui permettra de se procurer de la nourriture. Quant à celui qui est rassasié, son esprit est tourmenté par les plaisirs des sens. Et il conclut en disant « Il me semble que les Occidentaux ont plutôt le ventre bien rempli ». Voilà. Et ça, je crois qu'on peut réfléchir à ça. Il y a un lama bhoutanais qui nous disait ce dont manquent les Occidentaux le plus, eh bien, c'est le contentement. Nous sommes dans une insatisfaction permanente. Mais en tant que pratiquant du dharma, on doit pratiquer sur tous les facteurs perturbateurs, pas seulement sur la haine, l'aversion, la colère qu'on peut avoir de temps en temps dans notre esprit. Il nous est assez facile de remarquer que la haine, ce n'est confortable ni pour soi, ni pour autrui. Tout le monde est à peu près d'accord. Mais ce qui caractérise tous les facteurs perturbateurs, c'est dukkha, c'est-à-dire insatisfaction, frustration, souffrance, pour soi et pour autrui. On est tous d'accord pour voir dukkha dans l'aversion ou dans la haine, dans la jalousie aussi. On ne peut pas dire quand on est en pleine crise de jalousie, « Oh, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je suis heureux !» Ce n'est pas vraiment notre conception du bonheur. Mais le désir, l'attachement, est-ce qu'on voit le caractère dukkha présent dans le désir-attachement? Ça, c'est beaucoup plus difficile à le voir. Parce que c'est un peu notre conception du bonheur. On n'imagine pas qu'on puisse être heureux sans avoir le désir. Et parce qu'on confond aussi désir et plaisir. Et ça, c'est un autre aspect qui est peut-être lié aussi à notre civilisation. Et notamment notre civilisation spirituelle qui mettait plutôt le doigt sur le plaisir comme étant mal ou péché. Ou jamais dans la pratique du dharma, la notion de plaisir, l'expérience de plaisir est quelque chose de condamnable. S'il y a une expérience de plaisir, de félicité de l'esprit, mais c'est tout bon à prendre à 100%, quoi. Par contre, lorsque cette expérience se termine, ne pas être frustré, ne pas être insatisfait parce qu'elle se termine. Donc, ne pas être dépendant, en fait, de cette expérience de plaisir. Et c'est là où la véritable libération peut se produire. C'est se libérer de cette dépendance, de cet attachement à ce plaisir. Vous remarquerez le Dalai Lama ou les Rinpoche, on dirait qu'ils sont toujours satisfaits. Je pense qu'ils sont toujours satisfaits. S'ils ont quelque chose de très agréable, eh bien ils apprécient à 100%. Mais lorsque cette expérience se termine, leur esprit n'éprouve aucune frustration parce que cette expérience se termine. Et ils ne sont pas en recherche de renouveler cette expérience. Si les conditions sont là pour qu'elles se renouvellent, c'est très bien. Mais si elles ne sont pas là, leur esprit reste équanime, égal. Et ça, je crois qu'on peut quand même réfléchir beaucoup sur cet attachement. En quoi cet attachement, ce désir-attachement, est une souffrance pour nous et pour autrui, quoi. Alors maintenant, dans le Vajrayana, ces facteurs perturbateurs, on les voit comme étant fondamentalement de la nature de l'esprit, la nature de sagesse. Alors ça, c'est encore une autre approche. On n'a pas l'habitude de voir, de considérer notre colère comme étant nature de sagesse, notre jalousie comme étant nature de sagesse. On est formaté pour, d'une façon, à voir ces facteurs perturbateurs comme étant quelque chose de négatif. Dans l'approche du Vajrayana, eh bien, on change notre façon d'aborder la présence de ces facteurs perturbateurs. Où s'élèvent ces facteurs perturbateurs? De l'esprit. Ils demeurent dans l'esprit et ils se résorbent dans l'esprit. La colère s'élève dans notre esprit, elle demeure un certain temps dans notre esprit et puis elle se résorbe dans notre esprit. L'amour que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre, s'élève dans notre esprit, demeure dans notre esprit et se résorbe dans notre esprit. Y a-t-il une différence de nature entre la colère et l'amour? Aucune. Et ça, c'est une vue vraiment du Vajrayana. C'est-à-dire que les facteurs perturbateurs sont vus selon la nature même de l'esprit. Ils sont vus comme étant une dynamique de l'esprit, tout comme les qualités. Et c'est pourquoi on a cette notion des Dhyani Bouddha, les Bouddhas des cinq familles, pour nous rappeler que, le Bouddha voulant dire sagesse, pour nous rappeler en fait que les cinq facteurs perturbateurs principaux présents dans notre esprit, par nature, sont totale sagesse. Donc, le désir attachement, c'est quel Bouddha? Les anciens, là? Amitabha. De couleur rouge, et que l'on place à l'ouest, quand on construit un mandala, par exemple. L'opacité mentale, c'est le Bouddha Vairochana, de couleur blanche, que l'on place au centre du mandala. Ensuite, vous avez la haine-aversion. Eh bien, l'aspect sagesse de la haine-aversion, c'est le Bouddha Akshobhya, de couleur bleue, que l'on place à l'est. Il y a qui encore? La jalousie. La jalousie et l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est le Bouddha Ratnasambhava de couleur jaune et qu'on place au sud. Et la jalousie, c'est le Bouddha Amoghasiddhi de couleur verte que l'on place au nord. Bon. Mais ça veut dire que quand nous avons ces cinq facteurs perturbateurs, un pratiquant du Vajrayana, eh bien, il peut se dire, j'ai beaucoup de sagesse aujourd'hui. Et c'est donc une autre façon de considérer ou d'approcher le fait d'avoir ces facteurs perturbateurs. Ça ne veut pas dire que si j'ai de la colère, par exemple, ça ne veut pas dire, j'ai beaucoup de sagesse, donc je peux exprimer ma colère et éclabousser tout le monde. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais c'est avoir un regard différent sur la nature de ce facteur perturbateur. Et vous voulez dire, Sonny?
Oui, je comprends pas.
Ben oui, mais ça peut prendre du temps, mais oui. Ces facteurs perturbateurs, ils s'élèvent dans l'esprit. Ils sont de même nature que l'esprit. Donc, la vue, ça va consister à comprendre la nature de l'esprit. Et plus nous comprendrons la nature de l'esprit, plus nous pourrons comprendre la nature de ces facteurs perturbateurs et donc de les percevoir vraiment en tant que sagesse. L'esprit, il est vide, il est vacuité. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas être un objet, n'est pas un objet. On ne peut pas lui attribuer des caractéristiques de forme, de taille, de couleur, de dimension, de localisation que l'on peut attribuer à un objet. Donc quand on parle de la vacuité de l'esprit, eh bien cela veut dire qu'il est vide de toutes ces caractéristiques qu'on attribue à un phénomène, à un objet, etc. C'est ce que l'on veut dire par vacuité. Ça ne veut pas dire non-existence vacuité, mais ça veut dire vide de toutes ces caractéristiques. Ensuite, il y a cette vacuité, mais je vais reprendre les termes quand même de Rinpoche. Voilà, cette vacuité de l'esprit dans laquelle nous nous plaçons, il parlait de la méditation, est semblable à l'espace. Mais non pas à un espace obscur, où ne brilleraient ni le soleil, ni la lune, ni même les étoiles, mais à l'espace du jour éclairé par le soleil limpide et vaste. Lorsqu'on se pose dans la nature de l'esprit, dans sa vacuité, on doit le faire avec cette qualité d'ouverture et de limpidité. En second lieu, alors, quand on se pose dans cette nature vide de l'esprit, on prend toujours pour exemple l'espace. Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre lignée ou dans la lignée Nyingmapa, la notion d'espace est tellement importante quand on construit un centre du Dharma quelque part. Il faut toujours qu'il y ait une vue, une perte de vue. C'était le premier critère que Rinpoche Rinpoche nous avait donné lorsqu'on cherchait un lieu et qu'on a trouvé l'us, quoi. Il fallait qu'il y ait quelque chose, une ouverture, pour que cela soit un rappel de cette nature de l'esprit. On dit que notre esprit est vaste comme l'espace. Il n'y a pas de limite à notre esprit. On le voit comme étant limité. On le voit comme étant limité. Un petit moi, une espèce d'entité, hein, c'est moi. Mais vous le voyez où dans le corps, le moi, vous le voyez où? Dans la tête, dans le cœur. Les Occidentaux le voient dans la tête. Les Asiatiques le voient plutôt dans le cœur. En fait, si vous cherchez bien les caractéristiques que l'on peut donner à un objet, vous ne trouvez pas ces caractéristiques-là au sujet de l'esprit. Cette recherche des caractéristiques, cette recherche de la vacuité de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'approche analytique de l'acton, l'approche analytique de la vision pénétrante. Et nous devons faire cette investigation, parce que nous devons comprendre en quoi la conception de notre esprit comme étant quelque chose de solide, comme un objet, est une erreur. Nous devons déraciner cette erreur-là. Et nous devons utiliser l'analyse et l'intelligence pour comprendre où se situe cette erreur. Bokhara Rinpoche nous disait, les Occidentaux, parce que vous le comprenez tout de suite intellectuellement, vous passez beaucoup trop peu de temps sur l'approche analytique. Ça n'est pas suffisamment établi comme compréhension pour déraciner ce mode de fonctionnement qui voit l'esprit comme étant quelque chose, comme une entité unique, autonome et permanente. Ce qu'on appelle le moi, quoi. Bon. Mais il n'y a pas seulement cette qualité de vacuité dans l'esprit, il y a aussi la notion de clarté. Donc en second lieu, nous méditons sur la clarté de l'esprit. Vacuité et clarté ne sont pas deux aspects qu'on pourrait isoler, l'un se trouvant d'un côté et l'autre de l'autre. De la même manière que par une journée ensoleillée, le ciel et la lumière ne font qu'un. La clarté et la vacuité de l'esprit sont indissolublement mêlées. La clarté, on appelle ça souvent la luminosité aussi de l'esprit. Mais vacuité et clarté sont en elles-mêmes inertes. Elles ne peuvent générer aucun acte bénéfique ou négatif. Elles ne peuvent engendrer ni pensée ni émotion conflictuelle. Quand on demeure dans l'état de clarté-vacuité semblable à l'espace vide, il y a en même temps une qualité connaissante, une intelligence. C'est ce qu'on appelle en tibétain Rigpa, qui est consciente de la clarté et de la vacuité. Donc quand vous méditez, il y a cette notion de vacuité que vous pouvez expérimenter, il y a la clarté, la luminosité, l'esprit est quelque chose de lumineux, de clair, de rayonnant, on va dire. Mais il y a aussi ce troisième aspect qui sait tout ça, qui connaît tout ça, qui prend conscience de tout ça. Cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle l'aspect connaissance de l'esprit, l'intelligence de l'esprit. Ces trois choses ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. C'est complètement uni, si vous voulez. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc dans la nature de l'esprit, rien ne divise ces trois aspects. Bon. Dans Shiné, on laisse passer les phénomènes. On apprend dans le Shiné, c'est-à-dire la méditation du calme mental, on apprend à laisser passer tous les phénomènes. Mais en gros, on ne sait pas pourquoi on les laisse passer. On constate simplement que si on les laisse passer, notre esprit n'est pas perturbé et reste paisible. Dans la pratique de l'Aktong, la vision pénétrante, on comprend pourquoi on les laisse passer. Parce que les phénomènes sont de la nature de la vacuité. Et ils sont aussi clarté. Ils s'élèvent dans l'esprit, ils demeurent dans l'esprit, et ils retombent, ils se dissolvent dans l'esprit. Cette reconnaissance de cela, ça permet au facteur perturbateur eh bien, de simplement d'observer le facteur perturbateur et de ne pas le suivre, de ne pas le considérer comme quelque chose de solide. Ce n'est pas facile à faire, hein, je suis d'accord. Mais c'est vraiment l'approche typique du Vajrayana. Et pas seulement du Vajrayana, mais qui est très présente dans le Vajrayana. Cela suppose plusieurs choses. Cela suppose d'abord ne pas craindre les facteurs perturbateurs. Donc modifier ce mode de fonctionnement qui consiste à, dès qu'il y a de la colère qui s'élève dans notre esprit, « Ah non, il ne faut pas que je sois en colère. » Si on réagit comme ça, dès que la colère s'élève, on ne peut pas voir la nature de sagesse de cette colère. C'est clair. Ensuite, il y a un deuxième élément qui doit être présent, c'est le renoncement au fait de se mettre en colère. Et là, le renoncement doit être puissant. Quelqu'un qui pratique le Vajrayana, mais qui n'a pas le renoncement à l'expression, on va dire, ordinaire des facteurs perturbateurs, comme disait Bhokhara Rinpoche, non seulement il ne pratique pas le Vajrayana, mais il ne pratique pas du tout le Dharma. Et le véritable renoncement, c'est là où il se trouve. Un jour, il faut vraiment dire stop à ces facteurs perturbateurs. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette colère. Je ne veux plus de ce mode de fonctionnement de l'esprit par lequel je crée une certaine souffrance pour moi et une souffrance pour autrui. Ça, c'est vraiment une attitude du Bodhisattva. Et le véritable renoncement, il se situe là. Il ne s'agit pas de renoncer à sa famille, à sa situation professionnelle, à sa voiture, à ses bijoux, etc. Il faut renoncer à l'attachement pour tout ça, à notre colère, à notre jalousie, à chaque fois que ça se manifeste. Le véritable renoncement, il se situe ici. Et reconnaître, en fait, après la nature même de ces facteurs perturbateurs, c'est l'antidote, c'est la façon de méditer pour affaiblir ces facteurs perturbateurs. Mais s'il n'y a pas le renoncement au départ, on n'appliquera pas la méthode. Et donc ça, c'est un point de base qui doit être vraiment présent dans notre esprit. Un jour, il faut vraiment voir que nous sommes malades. Que nous sommes malades de ces facteurs perturbateurs et de la cause de ces facteurs perturbateurs. C'est la saisie égotique. Et si nous ne considérons pas comme malades de cette saisie égotique, pourquoi chercherait-on à s'en guérir, quoi ? Et ça, c'est voilà pourquoi on insiste tant dans la pratique sur le fait de comprendre le fonctionnement de notre esprit. Quand je dis que le calme mental, ce n'est pas seulement l'apprentissage de la non-distraction, mais c'est aussi l'apprentissage de la compréhension du fonctionnement de notre esprit. Et plus nous comprendrons le fonctionnement de notre esprit qui se base sur cette saisie, plus nous voudrons faire en sorte que cette saisie disparaisse. Mais si nous ne la considérons pas comme le véritable poison de tous nos actes, de toutes nos paroles blessantes, calomnies, humiliantes, etc., etc., jamais on transformera quoi que ce soit dans notre esprit. Donc l'esprit est donc décrit sous ces trois aspects, vacuité, clarté, intelligence. Si l'on médite en s'appuyant sur ces trois aspects de manière très vaste, très ample, que l'on pratique la pacification mentale, la vision supérieure ou les phases de création et d'achèvement des divinités du Vajrayana, cela procure une grande aise, une grande facilité et accroît l'efficacité. Si au contraire nous demeurons dans notre perception ordinaire, c'est moi, je suis dans ce corps, eh bien ces mêmes pratiques se feront avec peine, de manière étriquée, comme si nous étions coincés dans un défilé étroit et encaissé dont nous ne saurions pas sortir. Il est donc très important de savoir méditer comme nous venons de le voir. Donc voilà pourquoi cette vue, c'est-à-dire cette compréhension, même si on n'en a pas vraiment l'expérience, mais au moins comprendre ce que l'on veut dire par vacuité, par clarté et par connaissance, est si importante. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des pratiquants du Vajrayana qui pensent que le Yidam en question va, parce qu'on récite son mantra des milliers de fois, ça va produire une transformation sur le fonctionnement ordinaire de l'esprit. Je pense que on peut réciter des milliers et des milliers de fois Om Mani Padmé Hum si on n'associe pas cette technique, parce que c'est une méthode ça, à cette vue de la nature de l'esprit, ben, ça ne va pas développer ou transformer un iota du fonctionnement ordinaire de notre esprit. C'est pour ça que je dis souvent sous forme de boutade, il y en a qui pratiquent le Vajrayana et qui pratiquent Tara pour avoir une place de parking, quoi. Alors il y en a qui vont me dire ça marche. Oui, ben, c'est quand même pas le but, quoi. Alors tant mieux si ça marche, mais on ne pratique pas un yidam pour ça, quoi. On pratique un yidam pour transformer le fonctionnement de son esprit. Alors en conclusion, Rinpoche dit: je vous ai donné les méthodes qui, je pense, permettent que chaque fois que se produisent les émotions conflictuelles, des pensées ou des souffrances, elles se libèrent d'elles-mêmes. Alors ça, il faut expérimenter cela. Il faut voir que le facteur perturbateur, mais comme les pensées, comme tout autre phénomène, s'élève dans notre esprit, donc il est de même nature que l'esprit. Il est vacuité. On n'a jamais vu la colère. On voit les manifestations de la colère. On voit que la parole peut exprimer cette colère, que le corps peut exprimer cette colère, mais la colère elle-même. Et pourtant, elle peut se développer avec force, avec puissance. Donc c'est vu comme une dynamique de l'esprit. Et puis, il y a cette conscience qui sait que la colère est là, qui sait que la colère est présente, et qui peut la reconnaître. Ça, c'est les trois aspects de l'esprit. Alors, quand il y a un facteur perturbateur qui s'élève dans l'esprit, hein, Kalo Rinpoche en parle à un moment donné, il dit: mais asseyez-vous et regardez. Regardez ce facteur perturbateur. Mais pour le pouvoir le regarder, il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le craindre, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se dire: ok, il est là, eh bien, à quoi ressemble-t-il? Et vous appliquez cette compréhension, c'est-à-dire cette vue de vacuité, clarté et connaissance par rapport au facteur perturbateur qui est présent. Et il se libère. Il se libère, c'est-à-dire, bah, il perd totalement de sa puissance et en quelques secondes, il disparaît. Et la purification, ce qu'on appelle la purification des facteurs perturbateurs, cela veut dire qu'à chaque fois que l'on applique cette vue sur la présence des facteurs perturbateurs, eh bien, ceux-ci perdent de leur puissance, de leur parce qu'on ne les entretient plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Hein, quand cette personne avait demandé à Ringu Rinpoche: mais enfin, Rinpoche, vous n'avez donc jamais de désir? Il avait répondu: si, autant que vous. Mais on ne le saisit pas. C'est-à-dire que chez un être bien entraîné, dès qu'un facteur perturbateur apparaît, en même temps, il y a la reconnaissance de sa nature même. Et donc il s'évanouit à ce moment-là, immédiatement. Et ça se fait simultanément. C'est pourquoi, quand on est face à un Rinpoche, eh bien, on expérimente que leur esprit est toujours calme. Mais ça ne veut pas dire que c'est un calme dans lequel il ne se passe rien. Mais il y a cet aspect reconnaissance de la nature même de ce qui s'élève. Il dépend maintenant de vous que vous les mettiez en pratique ou non. Vous avez le choix entre rester empêtré dans les émotions conflictuelles ou bien vous en dégager. C'est comme vous le voulez. Vous restez prisonnier ou vous vous placez dans une situation confortable en laissant les émotions se libérer d'elles-mêmes. Il faut expérimenter cette auto-libération. Parce que quand on commence à l'expérimenter, mais c'est la paix. C'est la paix intérieure. Et cette paix intérieure, eh bien, va se traduire par nos paroles, va se traduire par nos actions, notre activité, nos gestes, etc. L'esprit étant le moteur des paroles et de nos actions. Voilà pourquoi c'est si important la méditation dans la pratique du dharma. Des questions ?
Moi, je dirais que si on n'exprime pas sa colère, on garde quelque chose en soi quand même, qui occasionne, ben, si on n'arrive pas à l'enlever par l'esprit, qui occasionne quand même un malaise. Et si on l'explique, ou si on pratique cette colère, et ben, on est quand même libéré physiquement, mais on a atteint l'autre personne dans son être. Alors, évidemment, il ne faut peut-être pas le faire, mais en même temps...
Oui. Là, on est dans l'auto-libération, en fait, des facteurs perturbateurs. C'est-à-dire que si on reconnaît la nature même de ces facteurs perturbateurs, ok, ils se libèrent d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de refoulement. Si on ne peut pas reconnaître leur nature et qu'on refoule, effectivement, là, c'est pas du tout la libération des facteurs perturbateurs dans ce cas-là. Alors, il vaut peut-être mieux, à ce moment-là, effectivement, peut-être de l'exprimer d'une autre façon, sans être sous leur emprise, avec la bodhicitta présente dans nos paroles et dans notre façon d'être. Mais là, il n'y a pas... S'il y a auto-libération des facteurs perturbateurs parce que nous en reconnaissons leur nature véritable, il n'y a pas possibilité de refouler ces facteurs perturbateurs. Ils se libèrent d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le but, en fait, de la méditation, quoi. Mais évidemment, tant que nous n'arrivons pas à cela, il y a le risque de les refouler. Et ça, c'est autre chose, ouais. Et c'est pas souhaitable.
Fois, les personnes qui on se met en colère, nous ne le comprenons que comme ça. Si on se met pas en colère, bah, il continue comme il était. Et si on se met en colère, là, il réagit, il dit, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Alors, je ferai une différence entre la colère et la compassion courroucée dont je parlais tout à l'heure.
Ouais.
Et bien souvent, la compassion courroucée serait une attitude juste que l'on doit avoir dans certaines situations pour que justement l'autre comprenne, mais il ne peut comprendre que par une attitude ferme. Mais la différence avec la colère, c'est que même s'il y a une apparence de colère, notre esprit n'est pas en colère dans la compassion courroucée. Et ça, c'est très différent. Et la plupart du temps, nous sommes en colère.
Oui.
Voilà. Parce que même si notre gosse n'en fait qu'à sa tête et qu'on veut lui faire comprendre de façon ferme, la plupart du temps, on est très énervé quand on agit de façon ferme avec lui, quoi. Donc, moi, j'ai vu des lamas vraiment dans la compassion courroucée. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un, par exemple, à un cours de musique, hein, la personne n'en faisait qu'à sa tête, donc le lama lui a dit « je ne peux rien vous apprendre, donc sortez », quoi. Et puis elle l'a bousculée parce qu'elle était un peu, elle résistait avec violence, donc le lama l'a mise dehors, quoi. Et ce qu'il y avait d'impressionnant, c'est que quand elle a été dehors, il est revenu à la personne qui avait les cymbales et il disait, bon, alors maintenant, vous les mettez comme ça. On sentait que son esprit n'était absolument pas perturbé, alors que si on est en colère, il faut quand même quelques minutes pour que notre esprit retrouve vraiment son calme. Là, instantanément, en fait, son esprit était calme. Son esprit a toujours été calme. Mais il a pris l'attitude pour que cette personne comprenne. Mais cette vue, c'est la pratique de l'Aktong, hein. C'est la pratique de la vision pénétrante, quoi. Nous devons absolument avoir cette vue pour passer aux pratiques du propre au Vajrayana. Rinpoche, depuis qu'il vient à Strasbourg, enfin à Strasbourg et ailleurs, mais depuis qu'on le fait venir, depuis qu'il il organise ses séminaires d'été, etc., il a passé son temps à nous enseigner la vue. Et on n'était pas dans la pratique. Et cette année, pour la première fois, il a demandé à ce que le prochain séminaire d'été, donc à Porto, eh bien, on soit dans la pratique des préliminaires. C'est la première fois que je vois Ringo Rinpoche dire, eh bien, pendant une semaine, on va pratiquer les préliminaires, c'est-à-dire des pratiques propres au Vajrayana. Et il estime sans doute qu'après avoir pendant des années expliqué la vue, on a dû comprendre un peu ce qu'il voulait dire par cette instruction sur la nature de l'esprit, quoi. Et ça me paraît indispensable de pratiquer le Vajrayana avec cette compréhension-là. Sinon, bah, effectivement, on attend du Yidam qu'il fasse des miracles. Le cas le plus typique que j'ai vu, c'était Anila Zangmo, la nonne qui vivait avec moi à Strasbourg. Il y en a qui l'ont peut-être rencontrée. Quand elle est décédée, elle attendait qu'un miracle se passe. Elle avait une grande confiance dans Ringu Rinpoche, à tel point qu'8 jours avant sa mort, Rinpoche, de l'Inde, on l'a appelé, il a pu discuter avec elle, lui donner vraiment les dernières instructions pour qu'elle parte. Elle était très calme après le coup de fil, elle est partie dans la panique la plus totale, quoi. C'est-à-dire qu'elle attendait que quelque chose se passe, mais que ce quelque chose vienne de l'extérieur. Elle n'avait pas suffisamment, si vous voulez, d'expérience. Hein, elle ne pratiquait pas depuis longtemps et son expérience n'était pas suffisante, eh bien, pour que ça vienne de sa nature de Bouddha, quoi. Pas de questions? Oui.
J'ai pratiqué les conseils que vous m'avez donnés la dernière fois de me donner, c'est-à-dire de faire monter un facteur perturbateur durant le sommeil. C'est facile.
Et le résultat?
Alors, le résultat, c'est une grosse question. C'est m'apercevoir que je ne savais pas quand je saisissais ou pas. Si je restais 10 minutes sur le facteur perturbateur, donc à un moment je m'en rendais compte, mais à d'autres moments où c'était beaucoup plus court parce que j'étais plus calme, je ne savais pas. Est-ce que j'ai saisi, j'ai pas saisi, j'étais dedans, j'étais pas dedans. Voilà. Et je n'arrivais pas non plus à percevoir le moment de la saisie. Qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord.
Quelle est la réalité dans, en fin de compte? C'est là où j'ai vu ce que vous avez encore raconté, quelle est la réalité du facteur perturbateur qui s'élève tout d'un coup. Parce que moi, pour moi, c'était, comme vous l'avez dit, c'était mon esprit vu d'une certaine manière.
Ouais. Et quand vous aviez cette compréhension, quand vous observiez le facteur perturbateur de cette façon-là, qu'est-ce qui se passait au niveau du facteur perturbateur?
Il disparaissait. Et donc, d'autant plus, j'étais. Eh bien, alors, qu'est-ce que je constate? Puisqu'il n'est plus là, je me suis concentré.
Ah, bah oui, non, mais c'est. L'expérience, l'expérience n'est pas, ne consiste pas à maintenir le facteur perturbateur. Hein? Mais c'est expérimenter que la méthode fonctionne. Si je ne le saisis pas, ce facteur perturbateur, le saisir, ça ne veut pas dire oh, il faut que je le lâche. Non, il est là, mais il faut que je le lâche. Ça, on continue de le saisir. La non-saisie de ce facteur perturbateur, ça consiste à reconnaître la nature même de ce facteur perturbateur.
Ma question, elle va un peu plus loin. Parce que en pratiquant chiné, je vois que le temps vécu change par rapport à, au départ, j'avais l'impression que ça arrivait tellement vite que je ne voyais rien passer, et puis ça se réduit, et c'est de plus en plus long. Mais après, je me demande, est-ce que la saisie, si je suis conscient, est-ce que c'est, j'ai déjà saisi, ou la saisie arrive-t-elle déjà plus tôt?
Non. C'est d'abord, on est conscient, et la conscience, être conscient de la présence d'un phénomène, ça ne veut pas dire saisir ce phénomène.
D'accord.
Hein? C'est être conscient de sa présence. Et ça, ça doit être présent dans l'esprit. Sinon, si on assimile la conscience à la saisie, alors ne plus saisir, ça veut dire on tombe dans l'opacité. Quoi.
Hein?
Donc ça, non. Être conscient, c'est l'aspect connaissance de l'esprit, justement. C'est cette conscience qui a cet aspect connaissance. Donc ça, non, vous devez être bien conscient qu'il y a tel ou tel facteur persuadeur ou telle pensée, etc., dans l'esprit. Hein? Quand il n'y a pas de saisie, ce phénomène, il ne fait que passer. Et on le regarde, et on le regarde passer, mais on ne le suit pas, on ne l'entretient pas, on ne le rejette pas non plus, mais il ne fait que passer. Hein? Mais être conscient n'est pas synonyme de saisir le phénomène.
Oui. Donc là, on parlait du Vajrayana. Mm. Et donc, dans Vajrayana, il n'y a pas cette notion de transformation des émotions perturbatrices.
Si. Pas là, oui. pas dans ce chapitre-là, mais après, quand la vue est bien établie, et que donc on reconnaît la nature de ces facteurs perturbateurs, mais on va pouvoir les utiliser. On va même pouvoir utiliser ces facteurs perturbateurs. Et là, c'est toutes les pratiques qu'on appelle les yogas. Quelqu'un qui a beaucoup de désirs sexuels, mais il va utiliser cette énergie-là, et si elle est puissante dans son esprit, sachant l'utiliser, eh bien elle va devenir un moyen extrêmement rapide et puissant pour réaliser l'éveil. Milarepa, c'est exactement ça, ce qui s'est passé chez lui. Si quelqu'un a beaucoup d'opacité, est toujours en train d'avoir un esprit très lourd, très opaque, eh bien, reconnaissant la nature de cette opacité, il va pouvoir l'utiliser. Mais il faut reconnaître la nature du facteur perturbateur. Sinon, on ne va pas pouvoir, on ne l'utilisera pas, on la renforcera. C'est pourquoi ces pratiques ne sont pas enseignées tout de suite directement, tant que la vue n'est pas vraiment établie. Parce que sinon, eh bien, ces pratiques mal comprises, mal pratiquées, eh bien, ne font que renforcer le facteur perturbateur. Donc, à la limite, elles vont, à ce moment-là, à l'encontre du but du dharma, qui est la libération. Donc, elles peuvent être dangereuses parce que mal comprises. Mais quelqu'un qui comprend la nature de ces facteurs perturbateurs et qui a beaucoup d'opacité, eh bien, il va pratiquer le yoga de la claire lumière, c'est-à-dire il va somnoler tout le temps. Il va être en méditation, mais alors comme ça. Alors, il va manger des choses très lourdes, puis il va être là comme ça tout le temps, toujours au bord de l'endormissement, de façon à vraiment utiliser cette opacité pour faire l'expérience de la claire lumière, par exemple. Mais voilà, il faut qu'il y ait d'abord ce préalable de la vue, ça c'est clair. Et c'est ce qui manque à la plupart des Occidentaux qui pratiquent aujourd'hui le Vajrayana. Vous en avez qui pratiquent des yogas en se disant « je peux me laisser aller à la colère » et qui deviennent des vraies pestes en se disant « mais plus j'ai de la colère, plus je peux transformer ». Il ne transforme rien du tout, c'est ce que disait Bhikkhu Rinpoche. Il ne transforme rien, donc il ne pratique non pas le Vajrayana, mais il ne pratique même pas le Dharma du tout. Parce que c'est... Le point principal quand même de la pratique, c'est la non-saisie. Hein. Et je ne sais pas si je vous ai dit le mois dernier, il y a une personne qui a eu une expérience de méditation et qui, juste avant que j'aille à Berlin, où il y avait Rinpoche, et cette personne me dit, demandez à Rinpoche si je peux utiliser la pratique de la claire lumière, puisque c'était une expérience de claire lumière. Et Rinpoche m'a dit, mais surtout pas. Mais surtout pas. On va mettre l'accent sur les faits, alors qu'il faut continuer de mettre l'accent sur ce qui a provoqué cette expérience, c'est-à-dire la non-saisie. Donc, il m'a dit que cette personne ne change surtout pas sa pratique, qu'elle continue à ne pas saisir. Elle aura des effets comme ça de plus en plus rapides et fréquents de la claire lumière. Mais pourquoi s'intéresser à l'effet alors que c'est la non-saisie qui a produit cet effet?
Une grande question.
que la joie est un signe de non-cessation. Peut être un signe de non-cessation.
Tout à fait. Ouais. C'est un des quatre bras de Chenrezig, la joie. Hein. Donc il y a l'amour, la compassion, l'équanimité. Hein, l'équanimité, c'est-à-dire cette attitude équanime envers tous les êtres, que ce soit nos amis, nos proches ou une personne qu'on rencontre pour la première fois. C'est ce rayonnement équanime de ces qualités, mais il y a la joie. Ouais. Et ça, quelqu'un qui vous dit qu'il a réalisé quelque chose et qui est comme ça toute la journée, à mon avis, posez-vous des questions, quoi. Le Dalai Lama est quelqu'un de joyeux. Tous les Rinpoche sont des personnes joyeuses. C'est-à-dire, ils ont les mêmes soucis que nous. Ils rencontrent les mêmes difficultés dans leur vie quotidienne que nous rencontrons. Mais leur esprit, eh bien, est dans cette joie parce que leur esprit n'est pas perturbé dans sa nature de paix profonde par le fait de rencontrer telle ou telle situation ou tel phénomène. C'est parce qu'ils ne saisissent pas. Donc, s'il y a de la joie aussi qui se développe dans votre esprit, ça, c'est un bon critère. Ça fait partie des qualités qui doivent se développer quand la saisie se libère. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Merci.